Et devant moi, un collègue oui. à qui je parle, à qui j'écris. Mais on se voit rarement. C'est Denis Martin Chabot, parce que moi, quand je suis pas au micro, c'est vous qui l'êtes.
C'est moi qui l'ai, oui. Puis on se parle continuellement. On se texte, on s'envoie des courriels. Des fois, on oublie même de se dire « Bonjour, comment vas-tu?
» On s'est pas vu, non. Ben, non mais c'est parce qu'on est comme bien ensemble. Puis oui. on n'est pas obligé de passer par quatre
moi,
chemins ou mettre nos gants blancs non
plus. Je
ne
travaille pas du bureau, je travaille plus de chez moi.
Oui, oui, oui. Mais aujourd'hui, vous êtes au micro. Oui. Et vous le serez pendant tout le mois d'août à Canalem, pendant
tout un honneur d'avoir un micro pendant un mois. Je l'apprécie beaucoup.
Ah oui, puis ça paraît que vous aimez ça,
merci.
Du micro. Oui. Denis Martin, vous n'aimez pas que faire du micro, vous aimez aussi écrire.
Oui.
C'est votre combienième ouvrage?
C'est mon 20e ouvrage.
20e?
Oui.
Wow,
ouais.
Je suis impressionnée.
Depuis 2003 que j'écris, ben que je publie, j'écris depuis bien avant
okay.
ça. Ouais.
Mais je me demandais, Denis Martin, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un jour?
Ah, c'est très simple. Puis je pense que
on
ça
est là
va,
pour parler
oui,
de votre
ça va
livre
rentrer,
vintage, Fripouille
oui,
des
ça va rentrer directement dans tout ça. Moi, comme personne queer, comme personne gay, je...
C'est quoi la différence entre queer et gay?
Gay, c'est plus l'orientation sexuelle. Queer, c'est plus une orientation aussi politique qui va au-delà de juste être gay, c'est d'être là aussi pour nos droits. C'est plus une orientation de revendication.
D'accord.
Et je préfère dire queer à gay. Mais plus jeune, je lisais beaucoup, j'ai toujours beaucoup lu. Vous savez, Hélène, je lis à peu près 80 livres par année. Des fois même ça, je m'épate.
Avez-vous une technique?
Je lis beaucoup le soir avant de dormir. Alors, tout ça, je lisais. Puis ouais. je me disais, j'aimerais ça lire des choses qui me parlent à moi. Et j'en trouvais pas beaucoup. J'en trouvais, mais c'était des livres français, c'était des livres américains, états-uniens, traduits.
Qu'est-ce que vous voulez dire des livres qui parlent
des
à vous?
Des livres qui parlent de la diversité sexuelle et de genre, d'être gay, d'être queer. Et je me suis dit, ben, je vais en écrire. Je vais écrire ce que moi, j'aimerais lire. Et ça a commencé comme ça. J'avais pris aussi de la formation pour écrire des textes de théâtre. Et,
ah oui, vous vouliez écrire du théâtre?
Oui, ben, des fois, je voulais améliorer ma façon d'écrire comme journaliste à la télé. Puis je me disais, on prend toutes sortes de formations. Et à la suite de ça, je me suis mis à écrire. Et c'est devenu des romans, c'est devenu des nouvelles, c'est devenu plein de choses.
Ouais. Et vous avez remporté des prix, notamment avec Rue Sainte-Catherine-Est, Métro Baudry.
Oui.
Il y a longtemps que je t'aime, Je ne t'oublierai jamais,
ouais,
qui ont remporté le prix d'honneur
long,
du
hein.
roman gay.
Oui.
mais celui-là, c'est vintage, mais il y a un sous-titre.
Friperie des souvenirs. Oui.
Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre-là? C'est quoi le rapport des histoires avec le titre? J'ai trois questions dans une.
Oui,
là.
Oui, ça va. C'est très simple, encore une fois. J'écrivais beaucoup de courtes nouvelles que j'ai publiées ça et là depuis à peu près une bonne vingtaine d'années. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui me dit, ben, tu devrais peut-être regrouper ça. Mais ça ne se regroupe pas si facilement que ça, des histoires assez disparates. Mais c'était
disparate, mais en même temps qui ont un fil conducteur.
Qui a un fil conducteur,
ouais.
Mais ça, je l'ai créé par la suite. Et c'est sûr qu'en relisant ce que j'avais écrit il y a 20 ans, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que j'ai déjà écrit parce qu'on évolue tout le monde, les choses évoluent.
Mm-hmm.
Et donc, ce que j'ai fait, j'ai dit, ben, je vais prendre un placard, c'est tellement symptomatique.
Sortir du placard.
Oui, c'est un symbole. Et je me dis, ben on va aller avec ça. Et la personne fait le ménage de son placard. Moi, j'en fais une blague parce que moi, je ne pourrais jamais retourner dans le placard, Hélène. Je ne pourrais jamais. Il y a trop de vêtements. Il n'y a plus de place pour moi là-dedans. À chaque fois que j'ouvre le placard, je n'ai rien à me mettre sur le dos. Puis c'est vrai, je le fais encore. Alors, tout ça pour dire que j'ai regroupé toutes les histoires. J'ai essayé de leur donner un fil conducteur, un souvenir. Et les nouvelles ne pouvaient pas, ou les textes ne pouvaient pas arriver au personnage central parce qu'il y a des choses qui étaient beaucoup trop loin de lui. Mais c'est un voisin. Ah, mais c'est quelqu'un qui connaît.
Quelqu'un d'autre. Ouais.
Alors, en retrouvant le souvenir. Et aussi, c'est devenu un livre où je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je dénonce maintenant dans nos communautés et dans le monde en général. Toute cette question du consentement qui... je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont des difficultés à comprendre ça encore, ce mot-là. Consentement. Hein, et la masculinité toxique.
Alors, c'est oui ou c'est non. Il n'y a pas de zone grise.
Quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, on revérifie. Des fois, ça peut être non après.
Ouais.
Point barre. Puis dans ce livre-là, on y va là-dedans parce que je pense que vous l'avez lu. Vous avez
vu
qu'il y a des endroits où
les
gens ne respectent pas le consentement et ça a des conséquences.
Les gens ne respectent pas le consentement et ceux, parce que
c'est
question
d'hommes,
qui subissent le non-consentement, aussi l'accepte d'une certaine façon.
Oui. Parce que ça fait partie, hein, c'est incroyable, ça fait partie d'un peu comment est-ce qu'on est socialisé. Parce que moi, je me suis fait dire, ben un homme, ça pleure pas, puis un homme s'encaisse, et puis quand ça fait pas, ben tu sacs un coup de poing d'en face à la personne, ça s'arrête là. Alors, on n'est vraiment pas dans une... C'est pas une culture où on se parle entre nous, où on... Oui, les choses ont évolué, mais j'avoue qu'il y a encore du chemin à faire.
Oui, on sent que les choses ont évolué. Et vous intervenez... Est-ce que c'est vous, Denis Martin Chabot, qui intervenez oui. directement dans vos textes?
Oui, parce que le personnage central, c'est moi. J'ai désiré que c'était moi. Parce qu'en grande partie, beaucoup de ce que je raconte, ça m'est arrivé. C'est sûr que c'est romancé, c'est de l'autofiction. Mais je disais que je me donnais...
Vous n'avez pas une vie... Vous n'avez pas eu une vie plate, en tout cas.
Certainement
c'est tout
pas.
Ce qui se passe dans les livres.
Pas tout, tout m'est arrivé. Hein. On s'est okay. dit, il y a des gens à qui c'est arrivé. Mais certaines histoires me sont arrivées. J'ai romancé tout ça. Et je voulais aussi me permettre, une fois dans ma vie, de passer des commentaires sur ce que j'écris. Et je le fais. Là, ça, c'est un peu bizarre, oui. En italique, il y a toujours qu'à tout moment, il arrive, le personnage...
Mais moi, on dit... Qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire?
Il vient passer des commentaires.
Ça, c'est du grand Denis Martin Chabot. Il peut pas s'en empêcher. Il peut pas s'en empêcher. Et est-ce que c'est la première fois que vous agissez comme ça dans
oui,
vos livres?
Ça ouais. sera la dernière fois. C'est juste que j'avais besoin de le faire cette fois-ci.
Oui.
Parce que j'avais besoin aussi de poser un regard sur moi-même qui a écrit ces textes-là il y a longtemps.
Oui.
Puis j'avais des choses avec lesquelles je n'étais plus d'accord avec moi-même, mais je me suis dit, ben écoute, le personnage, le narrateur, va intervenir puis il va le dire.
Et vous parlez d'homophobie intériorisée.
Oui.
C'est quoi exactement? C'est la première fois que j'entendais ces deux mots-là ensemble.
À force de subir l'homophobie sociale, à force de subir souvent la discrimination, les gens finissent par intérioriser et accepter que ça arrive comme ça. Et de se dire, ben, c'est normal parce que je suis pas correct, parce que je suis gay, parce que je suis queer, parce que je suis lesbienne ou quoi que ce soit. Et ce qui m'arrive, donc je le mérite parce que je suis en marche. C'est comme parfois la violence envers les femmes. Il y a des femmes qui vont se dire, ben c'est sûr que j'ai pas été bien gentille avec mon chum. Et je ne juge
elles
pas.
Elles vont prendre le blâme.
Elles vont prendre le blâme. Je ne juge pas là parce que c'est le syndrome de ce qu'on appelle de Stockholm, c'est le syndrome de la fameuse femme battue. Et l'homophobie intériorisée, c'est un gros problème qui fait que souvent les personnes qui vivent ça se retrouvent dans la drogue, se retrouvent en dépression avec des problèmes de santé ou encore pire que ça. Ça, c'est le sujet de mon prochain roman, c'est ce culte du corps parfait qui fait que les gens vont se mettre plein de produits dans le corps, pour de protéines, de suppléments, vont s'entraîner.
Ils vont se tuer à petit feu,
oui,
à
ce qu'ils appellent
souvent.
C'est le contraire de l'anorexie, il y a un autre terme qui vient
pas... La boulimie?
Non, je pense que c'est il y a un autre terme où les gens font beaucoup trop et se rendent malades aussi.
Oui.
Le culte du corps parfait ou de la performance. Et les gens vont prendre des produits pour améliorer leur performance sexuelle aussi. Alors, c'est tout ce culte de vouloir être, ne pas avoir l'air de cette espèce d'homophobie, donc intériorisée, de ne pas avoir l'air gay, ne pas agir
c'est
gay.
C'est une question d'estime de soi aussi,
oui,
de
là-dedans.
Confiance en soi.
Oui. Et tant que temps qu'on va vivre dans un monde où c'est encore marginalisé, ça sera toujours là. Ça.
Oui, mais vous en êtes libéré d'une certaine façon. C'est ce qu'on peut comprendre en lisant votre livre.
Je pense que oui, j'en ai beaucoup souffert de ça dans ma vie parce que j'ai travaillé à Radio-Canada où je ne devais pas paraître gay, je ne devais pas le laisser savoir.
Mais qui
savoir.
Vous disait ça?
C'était une règle qui était, comment je pourrais dire?
Qui n'était pas écrite.
Qui n'était pas écrite, qui était sous-entendue. Et donc, puis que j'ai moi-même, hein, que je me suis imposé moi-même aussi, il faut le dire.
Ouais.
Alors, c'est clair que maintenant, je ne vis plus ça. Je suis incapable maintenant, comme je dis, de retourner à mon placard.
C'est après votre passage, ben, vous avez longtemps travaillé à Radio-Canada, que vous êtes libéré de tout ça?
Je l'ai annoncé à un certain moment donné parce que j'en pouvais plus de vivre ça. Mais ça m'a rendu malade. Ça m'a rendu très malade. J'ai fait de grandes dépressions dans ma vie.
Ah oui?
Et ça m'a rendu très, très malade. Je peux le dire, j'ai fait des tentatives de suicide parce que j'en pouvais pas de vivre comme ça. Alors, quand j'écris ce livre-là, c'est un peu, quand j'ai décidé de le publier, j'ai dit, ben, je vais aller jusqu'au bout, mais il y en a un autre qui s'en vient, qui lui est un roman très autofictif, très basé sur ma vie, et qui va aller profondément dans ce qu'on vit quand on est une personne marginalisée.
Alors, vos personnages, parce qu'il y a plusieurs histoires,
oui.
Je ne les ai pas comptées, mais je les ai toutes lues.
Il y en a 17, oui.
17.
Ouais.
Alors, ils vivent parfois des expériences difficiles, homophobie, masculinité toxique. Vous parliez tantôt du consentement, du non-consentement,
ouais.
La honte. Mais malgré tout ça, il y a de l'humour.
Oui.
C'est important pour vous de...
Oui, parce que...
D'épicer ça avec de l'humour.
Ben, parce que je me dis, je ne voulais pas écrire un livre, les gens vont le lire, puis après ça, ils vont se jeter en bas du pont. Là,
ouais.
C'est vraiment
comme
pas...
une bouée de sauvetage.
C'est une bouée de sauvetage. Puis en même temps aussi, je pense que c'est sain de rire de soi. Moi, je le fais beaucoup parce que maintenant, à l'âge que j'ai atteint l'âge du troisième âge, j'ai quand même eu 65 ans cette semaine.
Vous avez l'air d'un petit garçon.
Merci.
Je donnerais 23 ans.
Ah, ben c'est gentil. Mais
bonne fête quand merci. Même, c'est intéressant. Votre anniversaire,
oui,
Denis Martin.
Oui, c'était dimanche. Et pour moi, rire de moi-même, l'autodérision, c'est aussi une façon de ne pas me prendre au sérieux. Parce que ça, c'est un gros défaut qu'on peut avoir souvent lorsqu'on a vécu des expériences ou quand on est une personne connue. Se prendre au sérieux, c'est...
On devient condescendant un peu, complaisant.
Puis je pense qu'à un moment donné, ça me permet d'avoir un très bon recul sur moi-même.
Ouais. Denis Martin, dans quel état d'esprit faut lire Vintage?
Ah, faut lire avec ouverture et puis avec l'idée de... D'abord et avant tout, c'est un livre, c'est un divertissement. Hein, je veux que les gens comprennent que c'est de l'art, c'est de la littérature, et on le lit pour ce que c'est. Puis c'est sûr que oui, j'utilise la littérature, l'art, pour passer peut-être certains messages, mais ce n'est pas le but premier. Mm-hmm. Le but premier, c'est vraiment de divertir le lecteur ou la lectrice.
Avez-vous rougi en écrivant? Parce qu'il y a des passages quand même assez explicites.
Oui, j'avoue.
des histoires entre homosexuels et on les voit, on lit leur histoire d'amour, ils font l'amour et c'est décrit avec moult détails.
Oui, faut dire que je me suis permis quand même dans une séquence, j'ai écrit ce texte-là, les deux joueurs de hockey, le vestiaire, j'ai écrit ça bien avant cette série Heated Rivalry. Là.
Oui, on y pense en tout cas.
Oui, mais la scène de sexe, elle est écrite avec aucune mention de l'acte sexuel. C'est toujours des mises en jeu,
le langage
du hockey. Oui. Et je le fais souvent ça. Parce que d'abord, ça m'amuse. Moi, ça me fait rire, donc je me dis que ça va faire rire d'autres personnes. Et aussi...
Mais c'est pas toujours ça. Mais en tout cas, je vous laisse
continuer.
Et puis,
c'est aussi une façon de dédramatiser aussi pour la personne qui va lire, parce qu'il faut savoir que ça se passe. Et souvent, moi, je me dis, la personne queer va peut-être comprendre et savoir, et « Oh oui, j'ai connu ça. » Puis d'autres personnes, je me dis, il faut peut-être qu'elle le voit. Et je me dis...
Elle le sache.
Je vais jusqu'à une certaine limite. C'est sûr que c'est surtout la violence que je pense qui est beaucoup plus difficile à prendre dans ces situations-là.
Oui. Est-ce que vous pensez que les lecteurs hétérosexuels peuvent se reconnaître dans ces histoires ou les apprécier, en tout cas?
En fait, Hélène, je vais vous dire que lorsque j'ai fait des salons du livre dans le passé, parce que beaucoup de mes livres ont ce genre de scène, la plupart des gens qui venaient faire dédicacer leurs livres étaient des femmes dans la quarantaine.
Ah oui?
Oui, c'est le plus gros de mon lectorat, ce sont des femmes.
Est-ce que ça vous étonnait?
Au départ, oui, pour m'expliquer, parce qu'il y avait quand même des séquences de tendresse, il y a quand même, c'est des trucs que beaucoup de femmes aimeraient peut-être voir leurs hommes être un peu plus gentils, tendres envers elles. Je sais pas, mais c'est quelque chose qui attire... ce lectorat, puis j'ai appris aussi que...
Mais c'est un gros cliché quand même, parce que c'est pas tous les homosexuels qui sont tendres et gentils.
Non, pas du tout. Mais pas du tout. On va s'entendre qu'un homme...
On a
homme,
plein d'exemples dans votre
un
livre.
Un homme, c'est un homme, Hélène. Un homme, c'est un homme.
Oui, puis pour la communication aussi, on passera, en tout cas, pour certains hommes, on ne peut pas généraliser. Non,
je ne généraliserai pas, mais il y a quand même encore beaucoup de chemin à faire. Mais tout ça pour dire que...
Les femmes hétérosexuelles,
c'est intéressant. Se reconnaissaient aussi là-dedans. Et j'ose espérer que... parler du consentement, pour certains hommes, de peut-être le voir dans un domaine très spécifique, ça va peut-être faire réfléchir. Je ne sais pas. C'est pas le but du livre. C'est sûr qu'il y aura peut-être des gens qui vont lever un sourcil ou deux. Mais moi, je me dis, je lis tellement de choses avec d'autres sortes de scènes entre personnages de sexe opposé. Je me dis, j'en ai vu pas mal. Je pense que je peux en mettre une coupe, moi aussi, là.
Denis Martin Chabot, vous avez évoqué votre déception à l'égard du travail de votre maison d'édition sur ce livre. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ça a été compliqué. La mise en page a été compliquée et j'avoue que j'ai lâché prise parce que ça a été long. Et je n'aime pas la mise en page du livre. Je le dis, achetez-le pareil, là, ça se lit quand même, mais j'aime pas la mise en page. Je trouve qu'elle est pas belle, qu'elle est trop serrée.
Il y a des coquilles. Il y a
encore des coquilles parce que je me rends compte que j'en ai tellement, tellement, tellement corrigé. Puis à chaque fois que j'en corrigeais une, il y avait un autre qui s'ajoutait par la suite. Et à un moment donné, j'ai dit, je peux plus continuer comme ça, ça me rendait fou. Je suis pas très content. Je sais que mon éditeur le sait.
C'était la première fois que vous collaboriez avec cet auditeur, cet éditeur-là?
Quatrième fois que je publie là, puis c'est la première fois que c'est aussi compliqué que ça.
Bon, on souhaite que pour la suite, ce ne le soit plus.
Ouais.
Quand on regarde l'ensemble de votre œuvre, on a l'impression que vous construisez une mémoire des expériences queer au Québec. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Ah, mon Dieu, c'est une grande responsabilité. Je construis une mémoire de ce que... moi j'ai connu, ce que moi j'ai vu et ce que ma compréhension de l'inconscient collectif de la communauté a connu. Je n'ai aucune prétention de dire que je raconte l'histoire. D'abord, ce sont des romans. Il faut dire que j'ai écrit des biographies aussi avec des personnalités de la communauté, oui. Des communautés LGBT. Oui.
Et pas que.
Et pas que. Oui, oui, que la mairesse de
Mégantic,
Mme Roy-Laroche. Mais bon, je pense que raconter nos histoires d'une certaine façon, des romancer et tout ça, c'est peut-être une façon de, oui, d'établir ce qui a existé, mais d'une façon romantique. Je ne suis pas historien.
Mais vous êtes une personne engagée.
Oui, oui.
Est-ce que vous diriez militante aussi?
Ben oui, militante, oui. Je pense qu'on ne peut pas avoir une orientation sexuelle qui n'est pas dans la norme et ne pas devenir militant. Parce que le simple fait de ne pas être dans la norme fait de moi une personne militante. Dès que j'ouvre la bouche et que je parle de ce que je vis, c'est perçu comme étant de la militance. Moi, non, je ne le vois pas comme ça, mais je comprends que pour plusieurs, c'est comme ça.
Fierté Montréal commence demain. Est-ce que vous allez y participer?
Ah oui, alors j'annonce que je suis dans non autre chapeau. Je suis directeur artistique de Fierté littéraire, qui est un organisme qui fait des activités littéraires pendant Fierté Montréal. Et à partir de demain, on a des activités tout le week-end à 5 heures le soir au parc qui appelle la Place du Village, en face du Mado sur Sainte-Catherine-Est.
Oui, là où vous avez lancé votre livre, au Cabaret Mado.
Au Cabaret Mado. Et donc, on va être là jusqu'à lundi. Et il y a toujours mon événement annuel, qui est le Grand TFH littéraire, où des personnes de la communauté, des artistes de la communauté viennent lire et ils se mettent littéralement à nu.
Oui. Pour vrai?
Pour vrai.
OK, il y a vraiment un effeuillage,
un effeuillage. Et c'est une expérience assez incroyable. Je ne pensais pas que ça durait longtemps comme ça. Je pense que c'est ma 7e édition que je fais cette année. Et les gens frappent à la porte pour y participer.
Bon, c'est bon signe.
Ben oui.
Alors, vous allez être très occupé au cours des prochains jours.
Oui.
Vous allez être aussi à la barre de Au quotidien à partir de lundi. Denis Martin Chabot, un homme aux multiples talents. Et je rappelle le titre de votre livre, Vintage, friperie des souvenirs. Merci beaucoup, Denis
Merci
Martin,
beaucoup.
Chez Crescendo.
Chez Crescendo.